au XXe siècle. Vous étiez, on a dû commencer par là quand je vous ai présenté, donc correspondante pour Libération, si je ne me trompe pas, donc à l'époque, dans les années 80.
Pour la Croix,
pardon. Mais vous étiez sur place. Voilà, donc peut-être je vais vous passer le micro pour que vous disiez un petit peu quelle est votre lecture de ce rapport de la France au Rwanda et pourquoi est-ce qu'il a fallu finalement tant de temps pour que la parole se libère, comme le dit Vincent Duclerc.
Alors, moi je suis journaliste, donc je serai forcément plus pessimiste ou j'ai plutôt tendance à voir les limites que les acquis, même si bien évidemment le rapport Duclerc nous a permis de progresser dans cette question de solder ce lourd passé entre la France et le Rwanda. Je ne suis pas totalement convaincue que dans l'opinion française, on ait conscience de la profondeur de cet engagement dans les années qui précèdent le génocide, c'est-à-dire à partir de 1990 à 1994. Même si le rapport Duclerc a permis un certain nombre de choses, il faut préciser aussi que le rapport Duclerc n'a pas eu accès à toutes les archives, notamment l'Assemblée nationale, celles de l'Assemblée nationale lui ont été refusées. Alors même que le président de l'Assemblée nationale de l'époque était un membre du parti présidentiel, ils n'ont pas eu accès à ça. Ils ont eu un certain nombre de difficultés. Donc c'est un mieux, mais ce n'est pas une fin en soi. Et puis il y a autre chose, tout de même, en dehors de cette folie, je dirais, qu'a été cet engrenage français au Rwanda, alors que tout de même, très vite, un certain nombre de signes étaient très clairs sur le fait que nous allions vers le pire, que nous allions vers les montées de l'intolérance. Il y avait une propagande, il y avait des journaux. L'un de ces journaux avait mis le portrait de François Mitterrand en quatrième de couverture en disant « un ami du Rwanda ». Dans le même numéro de ce journal Kangura, il y avait les 10 commandements des Bahutus qui étaient un pamphlet raciste incitant la population à se séparer des Tutsis, à se méfier des Tutsis, voire même à les tuer. Donc c'est pas la peine d'être un cerveau ou un analyste extraordinairement pertinent pour deviner que nous allions à la catastrophe et que la voie choisie était non seulement erronée mais criminelle. Il y a aussi autre chose. D'abord, c'est très bien d'avoir fait le rapport Duclerc, mais encore une fois, la recherche sur la vérité de notre engagement est loin d'être achevée. Mais il y a aussi autre chose. L'intervention de la France au Rwanda, elle s'est faite en deux temps, schématiquement, on va dire, les années 90-94. Le génocide est déclenché. Amaryllis arrive, et on l'a dit dans des tables rondes précédentes, prend les expatriés, laisse mourir ses propres employés. Et je peux vous dire que le terme « laisse mourir » est un raccourci, parce qu'il y a eu des scènes quand même où des employés tutsis ont été retirés de des camions militaires pour être abandonnés, alors que les gens avec qui ils étaient leur disaient « bon, tu ne dis pas que tu es rwandais, et puis on va voir, ça va passer », qui étaient des Français, mais qui espéraient que les militaires français les prennent avec. Et en fait, les militaires français se rendant compte qu'en fait, ils n'étaient pas français comme ils ont tenté de le présenter, africains mais français, les ont sortis et les ont abandonnés sur place, avec évidemment la menace d'une mort imminente. Donc il n'y a pas seulement ça, il y a ensuite bien sûr le temps 2. Et encore, on ne connaît pas trop le temps intermédiaire de ce qui s'est passé pendant le génocide. On sait très bien qu'il est très probable qu'il y ait eu aussi des Français qui se trouvaient ici ou là. C'est très opaque. Mais il y a eu les temps officiels, il y a eu le temps 2 qui est l'opération turquoise. Cette opération turquoise qui est déclenchée, on en a aussi parlé ce matin, à l'extrême fin du génocide, quand la plupart des Tutsis sont déjà exterminés, permet quand même de créer une zone sécuritaire sûre où nos alliés d'hier vont pouvoir passer et s'enfuir. À un moment, on ne sait pas très bien, avait-il espéré au moment de la gestation de l'opération turquoise, plutôt on sait, on a des doutes, carrément sauter à Kigali et arrêter le cours de l'histoire. Ça n'a pas été fait, il y avait des dissensions, On est à l'époque de la cohabitation, il y avait des dissensions dans le camp du pouvoir à Paris. Au passage, toutes ces discussions, toutes ces choses se sont décidées sans que ni vous ni moi n'en sachions un mot, ce qui prouve qu'on est une grande démocratie en France. On parle quand même d'intervenir à la fin d'un génocide, on parle d'implication dans un génocide, et tout ça s'est décidé, je veux dire, dans les alcôves de l'Élysée, puis dans des discussions dans lesquelles jamais on a songé nous demander notre avis, nous qui avions élu ces dirigeants. Donc se déclenche l'opération turquoise, avec la création d'une zone humanitaire sûre, qui n'était pas prévue au départ, mais c'était un peu la panique, vu l'ampleur de la Bérézina pour l'armée génocidaire, qui avait été très bonne dans les massacres, un peu moins au combat, face aux rebelles du Front patriotique rwandais qui continuent à progresser. Donc cette zone humanitaire sûre, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'évacuer, en fait, les responsables du génocide, les troupes, l'armée génocidaire qui passe avec armes et bagages. On est aujourd'hui 30 ans après. Les conséquences de cet exode facilité par la France, qui a même renoncé à arrêter, parce qu'il y a quand même, même au sein de la diplomatie française, il y a des gens qui voyaient ces gens passer, qui posaient des questions, qui envoyaient des télégrammes. Ils disaient, mais ne faudrait-il pas les arrêter? Ce sont eux qui viennent de commettre les massacres. Et la réponse de Paris était non, 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 laissez-les partir. Les conséquences, donc, de cet exode facilité de ces nazis africains, évidemment, elles se font sentir encore aujourd'hui. Elles se font sentir en France, où, et c'est vrai que c'était un peu le thème de mon précédent ouvrage, où, en fait, on a encore une bonne centaine de génocidaires, et pas des moindres, qui sont réfugiés chez nous, grâce à cet exode. Mais elle s'est fait sentir d'une autre façon. C'est-à-dire que ces gens qui ont été exfiltrés, qui n'ont renoncé à rien, ce sont des nazis. Il faut dire les mots comme ils sont. Je viens d'être jugé pour cette raison, mais j'ai gagné mon procès. Donc c'est un peu comme ma vie.
Contre le chef du renseignement militaire, si
voilà,
tu veux.
Voilà. Rwanda, pendant que j'ai... Donc, ils s'installent à la frontière du Congo, ils mènent des incursions... il crée un danger permanent, le nouveau gouvernement rwandais alerte l'ONU, mais rien ne se passe, et donc finalement, au bout de 2 ans, il y a une offensive de l'armée rwandaise couplée à une réaction interne au Congo, parce que, évidemment, ces génocidaires s'en sont pris aussi, notamment aux Tutsis qui vivaient au Congo. Les frontières africaines sont souvent artificielles, nées de la colonisation, donc il y avait des Tutsis au Rwanda, il y en avait aussi au Congo. Donc, cette conjonction va entraîner deux guerres monstrueuses africaines au Congo, et qui vont aboutir à des changements de régime, à beaucoup de choses. Mais, aujourd'hui encore, on a le résidu de cette armée génocidaire, qui, après avoir changé de nom et d'acronyme et de marque pendant des décennies, s'appellent maintenant, sont regroupés au sein d'un mouvement, d'une milice qui s'appelle le Front des Libérations démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, qui sont une milice assez très importante, prédatrice. Mais maintenant enracinés et installés au Rwanda, où ils ont créé des familles, ils ont épousé des femmes, ils ont formé d'autres milices à la même idéologie, notamment une milice s'appelle les Nyatura, qui a suivi des cours de formation militaire, mais aussi d'endoctrinement avec eux. Finalement, ils ont propagé le cancer de l'idéologie génocidaire au Congo. Et aujourd'hui, la situation qu'on a à l'est du Congo est un héritage, en partie, en grande partie, de cet exode et de la facilité avec laquelle les forces françaises, avec l'aval de l'Élysée, les ont laissées passer. Et on se retrouve aujourd'hui à une situation dont on entend parler régulièrement. Alors, on dit souvent un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, mais le cœur du problème, c'est aussi ces milices, ces gens, leurs enfants qui ont grandi avec cette idéologie génocidaire. Et moi j'étais jusqu'à avant-hier au Rwanda, et évidemment ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le Rwanda en ce moment, parce que cette idéologie génocidaire, elle est vraiment plus qu'en résurgence en ce moment. Elle est galvanisée. On assassine des Tutsis congolais tous les jours, on en arrête tous les jours. Et j'en ai rencontré dans un camp de transit, parce que ces gens qui sont congolais, qui se considèrent comme congolais, fuient maintenant vers le Rwanda pour se protéger. Et l'homme que je rencontre dans ce camp de transit vient de fuir son village au Kivu avec sa famille, et me dit-il 400 personnes. Et qu'est-ce qu'on leur disait ? On a brûlé leur maison et les cris c'était « Vous êtes des nilotiques, vous avez des néfins ». Enfin, exactement le même discours qu'on entendait en 1994 au Rwanda. « Vous êtes des étrangers », etc., etc. Exactement le même discours. Donc il y a une résurgence et une galvanisation qui, légitimement, préoccupe beaucoup le Rwanda. Et un soir, j'avais une discussion avec un intellectuel rwandais qui me disait « Maria, tu te rends compte que l'assimilation de l'idéologie génocidaire au Rwanda, ça commence à l'indépendance du Rwanda, 59-60. 59-60, il nous faut en gros 30 ans pour aboutir au génocide, pour que les esprits soient suffisamment endoctrinés, pour que le poison soit devenu quelque chose qu'on se transmet de père en fils. » Alors bien sûr, ils ont été aidés par des propagandes plus modernes, la radio des mille collines, mais voilà, on ancre ça, on ancre ce poison 30 ans, et il a fallu 30 ans, 94-2024, pour que ça s'exporte au Congo, et que ça soit de la même façon ancré dans beaucoup de têtes que, effectivement, les Tutsis congolais ne sont pas des autochtones, qu'ils sont indésirables, qu'on peut les identifier parce que les lynchages en pleine rue, c'est comme ça, parce que certains, pas tous, se trouvent être grands, minces, à la peau claire, et que dans ce cas-là, c'est dangereux. Moi, je connais des gens qui vivent à Goma, capitale du Nord Kivu, qui ont ce physique, mais qui n'osent plus sortir dans la rue, parce qu'ils ont peur de se faire lyncher. Et ça, je dois dire que là, on arrive aux 30e commémorations du génocide. J'ai suivi beaucoup de commémorations du génocide. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'elles se déroulent dans un tel climat de péril, de résurgence des mêmes mots. Et des rescapés à qui j'ai parlé encore une fois ces derniers jours aussi, au Rwanda, me disaient « C'est terrible d'entendre les mêmes mots, la résonance que ça a, les peurs que ça réveille. » D'entendre les mêmes mots qu'on entendait en 1994, on ne croyait pas que ça pouvait être possible. Voilà.
Merci beaucoup. En fait, Martial Kabanda partageait votre inquiétude ce matin, lorsqu'on en a parlé. Il évoquait cette question des Tutsis congolais et cette crainte, finalement, cette résurgence d'un discours génocidaire. J'ai l'impression aussi finalement que c'est ce sentiment d'impunité qui a permis pendant toutes ces années à ce climat génocidaire d'atteindre ce paroxysme dont parlait Vincent Duclerc ce matin. J'aimerais que l'on revienne peut-être sur le volet juridique. Donc vous avez suivi Maria Balagardis d'Afrosa et Alain Gauthier, vous avez parlé de leur combat donc, dans ce livre que j'évoquais. En fait, dans les récits de rescapés que j'ai montrés ce matin par le Classique Garnier, il est question finalement du fait qu'en dépit de cet énorme travail, eh bien, en 30 ans, il n'y a eu que 5 procès, 3 confirmés et 2 en appel. Et voilà, donc je vous passe la parole, monsieur Manguin, peut-être pour que vous,
vous évoquiez cette question. Avant d'aborder la question de la répression des génocidaires en Europe et en dehors du Rwanda, je voudrais revenir à ce que vient de dire Maria. Il s'avère que je suis le conseil de toutes les communautés Tutsi de l'Est du Congo, donc de la communauté Emma, des Tutsi du Masisi et des Banyamulenge. Pour parler simple et sans tomber dans l'émotion, il n'y a pas un jour, je pèse mes mots, il n'y a pas un jour depuis 2019 sans que je reçoive des images ou de témoignages concernant des personnes qui sont tuées, assassinées, torturées, violées. Pas un jour. J'ai montré à Maria le dernier photo d'un militaire Tutsi qui vient d'être tué aujourd'hui. Je peux vous montrer la vidéo de Wazalendo, donc une milice dans le Nord Kivu, qui sont en train, après avoir brûlé des fermes, de tirer à bout portant sur des Tutsis qui sont des bouviers du Masisi. Je peux vous montrer, c'est dommage que le temps nous fait défaut, je peux vous montrer les malheureux MA, les 29 MA qui ont été pris en otage par les milices Codeco, près de leur camp déplacé, qu'on a mis nus et qu'on a enterré vivant. Et je le précise ici devant vous, j'ai en main un ordre d'un militaire à la tête de l'armée à Bunia qui donne instruction de cacher les lieux où les corps sont placés. Nous déposons des plaintes pour les discours de haine qui sont de l'ampleur, je pèse le mot, de l'ampleur des discours de haine que j'avais vécu jeune avocat dans les années 90. Nous avons les mêmes discours, d'une même amplitude. Nous avons le même appui. Monsieur Onana, dont on a parlé aujourd'hui, il prend la parole à l'université de l'UNIKIN, publiquement, pour expliquer le malheur pour le Congo d'avoir des Tutsis. Et il le fait à l'instigation d'un certain monsieur Paluku, ministre qui est l'ancien gouverneur du Nord Kivu, qui est devenu ministre sous le régime actuel et qui est un des pires ennemis de la communauté Tutsi, qui incite insidieusement, qui est le capot des capis, insidieusement à poursuivre cette opération de destruction. Nous avons déposé 800 pages de plaintes pour les Banyamulenge. Nous sommes à une troisième série de plaintes concernant les discours de haine. Nous avons déposé des plaintes. Aucune de ces plaintes aujourd'hui n'est suivie d'effets. Et j'ai le plaisir d'avoir près de moi une personnalité politique. Mon problème, la déchirure qui est en moi, j'ai vécu les événements à l'époque. Je sais ce que ça veut dire, la montée du discours. Je sais ce que j'étais dans les bureaux, dans les locaux de l'ambassade de Belgique en 93 pour annoncer les massacres. Donc on ne me raconte pas de blagues, je sais ce qui se passerait à l'époque. Quand vous êtes déchiré en vous disant plus jamais ça, quand vous perdez vos amis qui en politique étaient engagés à l'époque, les Lando, les Gafaranga, Gatawadzi, qui ont perdu la vie, Agathe, Olingimana, qui ont perdu la vie, que vous savez que vous allez vivre toute votre vie avec ça, et que vous revoyez 30 ans plus tard, entendez-moi bien, 30 ans plus tard, au moment où on doit se dire on est en train de gagner ce combat, eh bien, on vit exactement l'inverse. On vit exactement une crise sans nom autour de cela. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, pour une fois, les paroles ne sortent pas dans le désert. Pour une fois, il y ait quelque chose qui soit entendu. Je vous le dis, j'ai donné des conférences de presse à New York, à Bruxelles, à Paris, au Rwanda, à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas entendus. Nous ne sommes pas entendus. Il n'y a pas d'écho dans la communauté internationale. Moi, je vous dis, je vous invite avec moi. Vous venez avec moi. Nous allons à Bunia. Nous allons dans les camps déplacés. Vous allez, j'ai 4000 mandats, vous entendez bien, 4000 mandats de familles MA concernant des victimes d'assassinats et de tortures et de viols. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies, refuse d'entendre ça. Elle parle de massacres interethniques. Elle parle de massacres entre des milices. Alors, je sais que la politique internationale n'est pas de l'ordre du judiciaire. Je sais que je suis avocat et j'ai du respect pour le travail de l'homme politique ou de la femme politique et son engagement. Mais à un moment donné, on doit se retrouver quelque part. On ne peut pas se contenter d'avoir une analyse froide d'ordre géopolitique sur ce qui se passe au Congo en se disant il y a des intérêts occidentaux majeurs au Congo, il y a les Chinois, il y a les Russes, etc. Donc, il faut qu'on ménage à un moment donné. Non ! Il y a un moment où ça doit s'arrêter et il y a un moment où il faut entendre la voix profonde de gens qui... Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous ne pouvez pas. Ça dépasse. Ça dépasse tout. Quand vous avez des amis tous les jours qui sont arrêtés. J'ai un garçon qui a été arrêté, qui est resté pendant un an à l'isolement à Kinshasa, sans visite, ni de famille, ni d'avocat, sans rien, sans système de défense. Et après, on a l'Union européenne qui présente ses félicitations pour des élections et qui valide. Mais où est-on? Où sommes-nous? Moi, je demande avec insistance, et parce que l'un des problèmes auxquels on est confronté, pour que vous compreniez bien tout cet enjeu, c'est que lorsque vous êtes à Goma comme journaliste, vous ne pouvez plus parler librement. Vous ne pouvez plus parler librement. Parce que vous êtes repéré, tous les services... Moi, j'y vais, mais dans la minute, on trouve un tueur dans un coin. Mais ça, c'est pas important, je m'en fous. Mais il faut s'imaginer ce que ça signifie, la liberté d'agir et de rechercher la vérité dans une ville qui est cernée, qui est hyper cerné, où la moindre accréditation est liée à un suivi complet en termes de renseignement. Il y a quelques jours, le responsable de la communauté Tutsi dans le Massissi a été arrêté. C'est un garçon qui n'a fait de mal à personne, je vous le dis, qui nous transmettait, c'est vrai, qui transmettait à notre collectif toute une série d'informations utiles pour comprendre les événements tels qu'ils se passaient. Parce que, bien entendu, quand les Niadoura arrivent, quand ils tuent, après ils vont dire « Ce sont des militaires du M23 que nous avons dû tuer. » Et il faut faire le tri entre les victimes de guerre, les victimes civiles, réelles, etc. Cet homme faisait ce travail calmement. Arrêté, il est parti, il y a 2 jours, avec un vol pour Kinshasa. À mon avis, il va être mis au secret pendant plusieurs mois. Donc, ma demande forte, au niveau du personnel, aidez-nous à faire prospérer nos plaintes. Elles ne sont pas suivies d'effet. Aidez-nous à ce que, quelque part, on puisse dire non, il faut que ça s'arrête. C'est pas parce qu'on est Tutsi congolais qu'on n'a pas le droit à survivre et à rester en vie sur le territoire congolais. Si l'engagement du politique se porte là, et je ne parle pas des intérêts géostratégiques, mais des intérêts d'humanité, je crois que cet après-midi n'aura pas servi à rien. Vous êtes au 30e anniversaire.
Merci infiniment. Merci infiniment, M. Lambert. On parle de Charles Onana, peut-être faut-il en dire un mot, puisque en fait, on en a parlé ce matin aussi. C'est quelqu'un qui a écrit des livres négationnistes, qui est docteur en sciences politiques de Lyon 3, qui est présenté comme étant un journaliste d'investigation, politologue, essayiste, éditeur, si vous regardez sur Internet, c'est ce que vous trouverez. Alors, ce monsieur a eu la parole en Sorbonne en 2004. J'ai envie de dire, mais en 2019, lorsqu'il a été poursuivi par la LICRA pour négation du génocide Tutsi en 2019, comment se fait-il qu'ensuite, après, là, quelque part, je porte votre voix et je me pose des questions, comment se fait-il qu'il ait été entendu au Sénat en 2020 on finit par se poser des questions et j'aimerais savoir quels sont, peut-être là-dessus que l'on pourrait terminer, qu'avons-nous comme outil à notre disposition lorsque l'on veut agir, que l'on soit juriste, que l'on soit journaliste, que l'on soit dans le domaine politique, comment pouvons-nous mener ce combat pour la vérité, pour établir les faits. J'ai apprécié le fait finalement de n'entendre le mot, ce mot devenu à la mode, le mot narratif, que d'une manière assez j'ai envie de dire, intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire pour ce qu'il doit être. C'est-à-dire, quand on a un narratif, c'est souvent des personnes qui vont contester les faits. Et faire attention un petit peu à ce terme qui aurait tendance à laisser penser que tout se vaut. Or, faire un travail juridique ou faire un travail d'historien, il s'agit d'établir des faits. Donc là, il n'est pas question de narratif. Donc, comment est-ce que lorsque l'on a des dossiers solides, comme ceux qui sont les vôtres, eh bien, on peut faire en sorte que la politique puisse quelque chose aussi pour que nous travaillions de concert.
Merci, merci beaucoup pour votre témoignage, maître et madame. Justement, pour parler de narratif, même si j'aime pas ça, mais de récit, je trouve que le récit qui se développe sur le Rwanda et l'image internationale que veut donner le Rwanda ne contribue pas à faire valoir la situation et l'extrême fragilité et vulnérabilité des positions des populations aujourd'hui Tutsi au Congo. Pour préparer cette conférence, comme l'a dit Frédéric, j'ai été appelée il y a quelques jours, donc j'ai forcément voulu aussi comprendre le Rwanda aujourd'hui. Et ce qu'on en voit, c'est un peu une forme de start-up nation, en fait, du numérique, logistique, une incroyable réussite économique, une incroyable... J'aurais bien voulu avoir aussi votre point de vue là-dessus, mais démarches de réconciliation à la fois avec le tribunal pénal international pour les dirigeants, mais aussi les tribunaux de justice ad hoc qui ont été mis en place pendant 10 ans, avec 2 millions d'affaires qui ont été jugées. Ça, en tout cas, c'est le narratif. Voilà. Et moi, je vois tout à fait là le narratif, et je vais accompagner le ministre des Affaires étrangères le 7 avril à Kigali, à la fois sur la grande réconciliation et sur le fait que ça commence à être derrière nous et que maintenant on regarde l'avenir avec optimisme, en ayant précisément su tirer les enseignements et en étant dans cette entreprise de réconciliation. J'écoutais juste avant de venir une émission sur France Culture d'une interview de la porte-parole aujourd'hui du gouvernement rwandais. Et voilà, qui parlait de cette manière de rendre justice et de réconciliation. Et donc ça va, on va parler pour une fois du Rwanda le 7 avril, comme on le fait tous les 7 avril, donc c'est pas suffisant, mais ce sera cette image qui sera donnée. Donc je pense que déjà en tant que politique, c'est de politique français. C'est deux choses. C'est à la fois d'interpeller le gouvernement sur le fait que l'image est beaucoup plus nuancée, parce que si les choses, effectivement, avancent et qu'il y a une stabilité politique et économique indéniable 30 ans après un pays qui était au chaos, dans le chaos, il y a une très très grande fragilité dans le pays voisin et à quelques kilomètres de là. Et puis, il y a nécessité aussi de continuer à interpeller le gouvernement français sur les lenteurs de la justice. Il y a eu des efforts, hein, il y a eu plus d'enquêteurs, plus de magistrats. Il faut aussi savoir qu'un pôle au crime contre l'humanité, c'est quelque chose d'assez unique. Donc c'est aussi, pas tout... Voilà. Il y a des choses quand même qui sont faites. Et interpeller sur le fait que, effectivement, quand il y a des dirigeants avec des rangs plus ou moins élevés, d'ailleurs, qui ont participé au génocide de 2014 et qui sont encore là et qui ne sont toujours pas inquiétés et vivent finalement des jours assez heureux dans notre pays, ça c'est insupportable. Donc moi je vois deux choses. Hein, c'est rappeler que la situation reste extrêmement, extrêmement préoccupante. Et puis interpeller sur la question de la justice ici dans notre pays.
Non, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que les progrès qui ont été, ce qui s'est passé au Rwanda après le génocide est absolument incroyable. Incroyable, c'est un pays qui était en ruine, qui était un charnière à ciel ouvert en 1994. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un pays qui fonctionne, où il y a des dispensaires, où tout le monde a l'assurance maladie, où il y a, enfin, je veux dire, où, tous les services fonctionnent. Alors bien sûr, comme dans tous les pays, il y a des problèmes, mais la renaissance, la façon dont ce pays est ressorti, a ressurgi de ses cendres, j'ai l'impression, est quand même assez unique au monde. Mais il ne faut pas oublier que le Rwanda a quand même une particularité par rapport à d'autres génocides, c'est que sur un espace qui est de la taille de la Bretagne, plus ou moins, les victimes et les bourreaux sont obligés de cohabiter, parce qu'il n'y a pas eu de nation de substitution, il n'y a pas eu d'Israël pour les Tutsis, il n'y a pas eu d'Arménie ailleurs. Donc la réconciliation, elle se fait, mais elle est forcément fragile dans les cœurs, parce qu'on dit aux victimes non, faut pas se venger, et on dit aux autres faut oublier votre idéologie, mais c'est pas et puis il y a tous les gens qui étaient entre les deux, parce que c'était pas un conflit ethnique. Il y avait les extrémistes Hutus, il y avait d'autres Hutus qui n'avaient pas du tout ces positions extrémistes. Et il y avait en revanche toutes les victimes qui étaient toutes Tutsis, ça c'est sûr. Même s'il y a eu aussi des Hutus opposants qui ont été tués. Donc c'est une situation quand même très difficile. Et moi j'ai quand même l'impression que dans le langage courant, parmi mes collègues ou dans les ONG internationales, le Rwanda est toujours un peu en position d'accusé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à l'Est et on n'arrête pas de nous bassiner avec l'agression rwandaise, que le Rwanda voudrait piller, déstabiliser le Congo. Alors, c'est quand même un peu une insulte à l'intelligence, parce que c'est comme si on accusait le Liechtenstein de vouloir déstabiliser l'Europe de l'Ouest. Il y a un moment où... et puis on ne déstabilise que ce qui est stable. Or, la RDC n'a pas attendu la période récente, et même 94, pour être un pays de chaos organisé, où seuls les dirigeants prédateurs trouvent leur compte dans les fabuleuses richesses de ce pays. Et les premiers prédateurs de l'Est du Congo, ça reste eux, c'est pas le Rwanda. Mais ce véhicule, cette espèce de petite chanson, on l'entend tout le temps, tous les deux matins, agression rwandaise, de la point de vue des officiers. Alors, c'est vrai qu'ils sont très efficaces, hein, le régime à Kinshasa. Quand ils voient que les diplomates, que la communauté internationale ne sont pas assez véhéments contre ce bouc émissaire de tous les problèmes du pays, alors ça, ils ont un discours populiste qui fonctionne à fond les balais, quand ils voient que les diplomates ont l'air d'avoir quelques doutes, ne crient pas aussi fort que leurs propres communicants, eh ben, ils lancent leurs troupes, sympathisants du pouvoir, et puis on leur donne un petit billet, ils vont brûler des pneus devant les chancelleries. Alors ça, c'est un effet immédiat. Ça fait un peu paniquer les diplomates, outre les intérêts économiques dont pourrait... La RDC, de toute évidence, comme on dit, too big to fail. Et effectivement, ils savent très bien jouer de ça. Un jour, ils disent « Ah, on va aller avec les Chinois, ah, on aime bien les Russes ». Et donc tout le monde se précipite pour arrêter le truc en disant « Non, 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 on va s'arranger ». Mais en plus, ils savent user de la violence de rue de façon absolument magistrale. Donc on arrive au fait qu'à un moment ou un autre, que ce soit Bintou Keïta que Bernard évoquait, mais aussi la plupart des pays, finissent par dire « oui, alors le Rwanda doit arrêter d'embêter la RDC ». Même si, dans un espèce d'en même temps, cette fois-ci très diplomatique, on dit « et en même temps, il faudrait que la RDC arrête de soutenir les milices génocidaires qui sont toujours présentes dans l'Est ». Mais la première phrase, c'est l'accusation du Rwanda. Toujours. Parce qu'il y a cette espèce de difficulté. Et pourtant, je dois reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir eu un courage assez remarquable lors de sa visite à Kinshasa le 1er mars, où il est, à ma connaissance, l'un des rares, voire le seul dirigeant occidental, voire même dirigeant tout court, parce qu'il ne faut pas croire que les dirigeants africains sont beaucoup plus courageux, ils ont les mêmes stratégies, hein. Là on parle de l'Occident, mais si on regarde du côté de l'Union africaine, c'est assez lamentable également. Alors que le président Tshisekedi essayait de le pousser à condamner le Rwanda, comme il le fait en permanence, parce que pour lui, c'est un tel exutoire, il a pillé son pays, enfin je veux dire, son régime est une catastrophe qui fait regretter le maréchal Mobutu, Emmanuel Macron lui a dit les quatre vérités dans les yeux, et je pense que c'est assez rare, et publiquement, lors de cette conférence de presse, en lui disant « Mais attendez, mais qu'avez-vous fait pour stabiliser ou arranger votre propre pays depuis 1994. Et ça, c'est vrai que c'est un langage de vérité qu'on n'a pas entendu très souvent, mais c'est un peu comme la marée. C'est-à-dire ça, c'était une grande avancée, puis après, tout le monde s'est retiré, et la frilosité domine à nouveau, et oui, bien sûr, on condamne l'agression rwandaise. Et ça, c'est pas que du folklore, parce que le Rwanda est un petit pays fragile, qui a bien évidemment moins d'intérêt stratégique que cette espèce de mastodonte qu'est la RDC. Et d'ailleurs, la région la plus intéressante, contrairement à ce qu'on dit souvent aussi, c'est pas l'est de la RDC, c'est le Katanga. C'est là que se joue l'avenir du monde. C'est un discours facile. Le régime Tshisekedi a trouvé un ennemi qui est le Rwandais. C'est la faute au Rwanda et par extension au Tutsi congolais. Et donc voilà, on aboutit à cette résurgence de discours de haine que Bernard a décrit de manière très poignante et qui est vraiment dont le niveau de criminalité est extrêmement important. Mais c'est vrai qu'on n'assiste pas encore aujourd'hui à une communauté internationale qui prenne les choses en main et qui dise « bon, ça suffit, les faux-semblants, on arrête de pointer le Rwanda et on va regarder un peu ce qui se passe dans votre propre pays ». Encore une fois, il y a de temps en temps des résurgences et puis tout le monde se carapate. Et il est vrai que leur force de nocivité est terrible, à commencer par ces violences de rue qui sont effectivement totalement effrayantes.
Moi, je voudrais revenir à, peut-être si vous m'y autorisez, à la... Moi, si je suis avocat, donc il faut que je parle un peu justice. Je voudrais d'abord vous raconter quelque chose d'important. Après le génocide, on a eu pas mal de pression au niveau du gouvernement rwandais pour aller vers un processus de réconciliation immédiat, c'est-à-dire de créer des commissions vérité et réconciliation et d'éviter la stigmatisation des génocidaires. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Mulligan Desha, a été envoyé par le gouvernement, le jeune gouvernement rwandais, en Afrique du Sud pour interroger les Sud-Africains, notamment leurs compagnons de lutte, qui étaient à l'époque ceux de l'ANC, pour leur demander ce qu'ils en pensaient, puisque en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid était liée à une absence de poursuites pénales contre les auteurs de crimes de l'origine de l'apartheid. Et les gens de l'ANC ont dit à Charles Mugande, surtout ne rentre pas dans cette approche-là, parce que c'est le prix que nous avons payé pour la fin de l'apartheid. La fin de l'apartheid, nous avons dû faire deux concessions, pas remettre en cause la distribution des richesses dans le pays, et deuxièmement, ne pas poursuivre les crimes imprescriptibles. Et si vous entrez dans cette logique-là, vous allez créer une bombe à retardement. Et c'est à partir de cette réflexion qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout dans le débat sur la justice. Alors, l'étape suivante, ça a été d'aborder la question de la justice d'une façon aussi qui était très complexe, puisque vous savez qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient poursuivies, et que l'application des règles de procédure légale aurait amené des procès pour des dizaines d'années, voire peut-être 2-3 siècles. Et donc, il y avait l'impraticabilité du système de justice qui a justifié la mise en place d'une procédure tout à fait originale qui s'appelle la gachacha. La gachacha, c'est en fait une procédure qui était historique, donc dans la culture profonde du Rwanda, et qui était plutôt destinée à des crimes ou à des infractions moins importantes. On a décidé de l'utiliser pour permettre à une magistrature de proximité de travailler sur l'échange de la parole. Alors, comme toute œuvre de justice, elle n'est pas parfaite, mais elle a eu un très très grand mérite. C'est que, vous savez, il y a dans la fonction du judiciaire, il y a cette fonction de clore à un moment donné symboliquement la palabre sur ce qui est juste et ce qui n'est pas, du point de vue du judiciaire en tout cas. Donc on est parvenu, grâce à la gachacha, à rendre une justice de proximité avec des mécanismes aussi qui ont permis aux uns et aux autres de s'exprimer et de s'entendre. Et donc ça, c'était une étape très importante, avec simultanément un travail pour traquer les génocidaires au niveau international. Je vais y revenir après. Alors après ça, c'est vrai que il y a eu, et là je reprends le débat par rapport à M. Védrine, parce que vous savez qu'après le génocide, M. Védrine avait sorti un gros article sur le thème « Il faut désormais créer un Hutuland et créer un Tutsiland ». Et sans créer de secret, mais malgré tout dans une certaine proximité, je peux vous dire que dans les semaines qui ont suivi le mois de juillet 1994, il y a eu des réflexions qui ont été faites sur l'avenir du pays avec ce qu'on découvrait. Et c'est M. Kagame qui a dit « On a toujours été depuis des siècles sur ce territoire. On va s'efforcer de continuer à être ensemble sur le même territoire. » Ce qui est un incroyable pari. Et dans ce travail-là, on a repris un travail sur la réconciliation et la résilience. C'est un travail très, très compliqué. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur et la difficulté du travail, parce que vous pouvez imaginer tout ce qui tourne autour de l'échange de la parole dans la famille et l'échange de la parole dans la cité, et donc tout ce qui est dans la transmission familiale chez la victime et tout ce qui est dans la transmission familiale chez le génocidaire et la famille du génocidaire. Donc comment faire à un moment donné qu'on recrée du socle commun du consensus? C'est excessivement difficile. Donc c'est un travail, à mon avis, qui n'est pas terminé sur cette génération-ci, qui va devoir prendre encore une ou deux générations. Il faut accepter d'être les passeurs de ce travail de résilience, mais il ne faut pas y renoncer. Et là, je refais le bond avec cet espace au niveau du Congo. Pour moi, le grand échec qu'on a vécu, c'est que je pense qu'on a pu avancer au Rwanda, ce qui était déjà assez miraculeux. On a des expériences. J'espère que vous venez au Rwanda, qu'on vous fera visiter d'un autre village où les personnes travaillent ensemble, échangent ensemble, malgré tout ce qui a été vécu, et parfois des gens qui ont été condamnés, qui ont exécuté leur peine et qui retrouvent une socialité à côté de ceux qui ont été victimes. Donc vous imaginez la difficulté de vivre ça, et je crois qu'on doit continuer ce travail-là. C'est un travail très important, mais au fond, ce travail idéologique, on l'a complètement abandonné, et la communauté internationale l'a complètement abandonné dans l'est du Congo. Et c'est ça la difficulté. Pour moi, c'est un enjeu énorme. Je ne vais pas rentrer dans toutes les expériences de vie, parce qu'on aura pour des heures et des heures, mais je reste indéfectiblement optimiste, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de dialogue et d'empathie entre les différentes communautés sur les villages, si on distribue bien les richesses, si on a une police ordonnée, si on lutte contre la corruption, si on gère un rapport aux mafias. Et ça aussi, c'est un travail qui a été mené. Je sais qu'on donne souvent cette image qui est réelle starting nation d'un pays. Mais il y a quelque chose en plus profond pour moi, c'est quand on a accepté de lutter contre la corruption, la lutte contre la corruption, ça c'est une étape considérable. Le travail sur la mutuelle de santé pour tous, le travail visant à donner accès à l'informatique à tous les enfants, parce que l'entrée dans la parole, je ne veux pas donner des leçons au philosophe qui est en face de moi, mais l'entrée dans la parole démocratique passe évidemment par un travail en profondeur sur l'accès au savoir. Ce travail-là, on doit le faire. Et à l'est du Congo, c'est une région complètement martyrisée. Donc moi, je ne suis pas du tout dans le débat Rwanda contre Congo, Congo contre Rwanda. Je suis dans le débat de me dire, là, on est en train d'échouer. Et il y a tout un travail à faire. Et sur la justice... Pour donner un exemple, moi je suis partisan qu'on commence simplement par quelque chose, c'est un traité international dans la région des Grands Lacs sur la répression des discours de haine. Parce que en ayant ce traité international et en ayant éventuellement un travail de tous les services de police et de tous les services d'enquête qui travaillent ensemble, on peut arriver à des résultats. J'arrive alors à la question de la justice ici. Il faut dire les choses comme elles sont, que ce soit en Belgique ou en France. On n'a pas beaucoup parlé de la Belgique, mais croyez-moi, nous avons été d'une lâcheté totale. S'il y avait qu'un avocat de nationalité belge, la Belgique était lâche. C'est bêtement lâche. On a perdu 10 hommes le 7 avril 1994. Et quelques jours plus tard, le gouvernement a décidé de retirer tous les Belges du Rwanda parce qu'ils avaient peur de perdre les élections si un avant-gardiste qui mourait. Donc ce choix-là, c'est le vrai choix politique qui a été fait. Il y a eu un lobbying incroyable qui a été fait aux Nations Unies pour une résolution. On a retiré nos hommes et c'est ainsi notamment que les troupes de la MINUAR citées par Patrick tout à l'heure, se sont retrouvés réduits à peau de chagrin avec le malheureux Roméo Daner. Mais pour revenir au débat, vous imaginez bien que dans des pays comme la Belgique ou la France, vous avez un paquet de gens un peu partout, dans les appareils judiciaires, dans les appareils d'État, qui ont freiné des cas de fer, la traque et la répression des génocidaires. Et l'exemple le plus incroyable, c'est l'exemple récent de ce monsieur Ndiwiri Gabo, qui était responsable des renseignements, qui, à mon avis, était au cœur de l'appareil et qui a vécu pratiquement 30 ans calmement sur le territoire français. Comment peut-on ne pas repérer ça et le jour où les procès se poursuivent, et surtout mener toujours les procès dans le respect des droits de la défense, dans le respect du procès équitable, c'est notre grandeur d'amener à des condamnations qui sont des condamnations exemptes d'équivoque au terme de plaidoirie et où chacun a pu s'exprimer. Mais ce qui est le problème, c'est qu'on ne s'est pas donné, ni en Belgique, ni en France, tous les moyens pour mener à bien ces combats. Et je ne parle pas de phénomènes qui sont en cours actuellement, c'est-à-dire les gens qui tiennent des discours de haine au départ de la France, de la Belgique ou de l'Allemagne, ou qui collectent de l'argent au départ de ces pays et qui les amènent sur le territoire congolais pour acheter des armes pour les milices Nyatura, pour les Namaïmaï ou pour les Wazalendo. C'est un vrai problème. Et on parle toujours d'un monde connecté, mais le monde... je dirais de ces affreux, excusez-moi de les appeler de la sorte, il est très connecté, croyez-moi.
Merci infiniment, merci infiniment à tous les trois. On est au-delà du temps, on est déjà au-delà du temps, et je remercie une dernière fois donc Astrid Poenzian, Marie Malagardis et Bernard Manguin. Merci infiniment pour vos interventions. Donc je repasse la parole au chef d'orchestre.
Oui, merci, cher Iris. Un deuxième Bernard devait intervenir après celui-ci.